Aristote, Grande Morale. Livre 1er, chapitre 26. Sommaire. De la dignité et du respect de soi dans les rapports de société. Elle tient le milieu entre l'arrogance, qui n'est contente que d'elle-même, et la complaisance, qui recherche tout le monde. Paragraphe 1. La tenue et le respect de soi est le milieu entre l'arrogance, qui n'est contente que d'elle-même, et la complaisance, qui s'empresse indifféremment pour tout le monde. La tenue s'applique aux relations de société. L'arrogant est d'humeur à ne fréquenter personne et à ne daigner parler à qui que ce soit. Le nom même qu'on lui donne, en Grèce, autades, paraît venir de sa manière d'être. L'arrogant est en quelque sorte autoades, c'est-à-dire content de soi, et l'on appelle ainsi parce qu'il se plaît beaucoup à lui-même. Paragraphe 2. Le complaisant est celui qui peut s'accommoder de la société de tout le monde, pour toute relation et en toutes circonstances. Ni l'un ni l'autre de ces caractères n'est louable. Mais l'homme qui a de la dignité et de la tenue est estimé parce qu'il garde le milieu entre ses extrêmes. Il ne va pas avec tout le monde. Il ne va qu'avec ceux qui sont dignes de sa société. Mais il ne fuit pas tout le monde non plus. Il ne fuit que ceux qui méritent aussi qu'on les évite. Chapitre 27. Sommaire. De la modestie. Elle tient le milieu entre l'impudence qui se permet tout et la timidité que tout embarrasse. Paragraphe 1. La modestie est un milieu entre l'impudence qui se permet tout et la timidité que tout paralyse. Elle se produit dans les actions et dans les paroles. L'impudent est celui qui dit et fait tout, en toute rencontre, devant tout le monde, selon que cela se trouve. L'homme timide et embarrassé, qui est le contraire de celui-là, est l'homme qui prend toutes sortes de précautions pour agir et pour parler, en toutes choses, avec tout le monde. Il est toujours gêné et comme interdit. Il n'est bon à rien faire. La modestie et l'homme modeste tiennent le milieu entre ces extrêmes. L'homme modeste saura se garder à la fois de tout dire et de tout faire, en toute occasion, comme l'impudent, et comme le timide qui se démonte trop aisément d'avoir défiance pour tout et toujours. Mais il saura faire et dire les choses où il faut, qu'il faut et quand il faut. Chapitre 28. Sommaire. De l'amabilité. Elle est le milieu entre la bouffonnerie, qui plaisante de tout et constamment, et la rusticité, qui ne plaisante jamais et qui se blesse aisément. La véritable amabilité se prête facilement à lancer des plaisanteries et à en recevoir. Paragraphe. L'amabilité est le milieu entre la bouffonnerie et la rusticité. Elle se rapporte à l'usage de la plaisanterie. Le bouffon est celui qui s'imagine qu'on peut se moquer de tout et de toute façon. La rusticité, au contraire, est le défaut de celui qui croit qu'on ne doit jamais se moquer de rien et qui s'emporte si l'on vient à se moquer de lui. La véritable amabilité est entre les deux. Elle ne plaisante pas du tout et toujours, mais elle n'est pas moins loin d'une grossièreté rustique. Du reste, l'amabilité peut se montrer sous deux faces. Elle sait à la fois plaisanter avec mesure et supporter au besoin les moqueries des autres. Tel est l'homme vraiment aimable. et la véritable amabilité qui se prête facilement à la plaisanterie. Chapitre 29. Sommaire. De la bienveillance, elle est le milieu entre la flatterie et l'hostilité. La flatterie exagère les choses. L'hostilité les diminue. L'amitié bienveillante les dit comme elles sont. Paragraphe 1. L'amitié sincère est le milieu entre la flatterie et l'hostilité. Elle se montre dans les actes et dans les paroles. Le flatteur est celui qui accorde aux gens plus qu'il ne convient et plus qu'ils n'ont. L'ennemi de quelqu'un est celui qui nie même les avantages évidents que possède cette personne. Il va sans dire qu'aucun de ces deux caractères n'est louable. Paragraphe 2. Le sincère ami tient le vrai milieu. Il n'ajoute rien aux avantages qui distinguent celui dont il parle. Il ne le loue point de ceux qu'il n'a point. Mais il ne les rabaisse pas non plus et il ne se plaît jamais à contredire son propre sentiment. Tel est l'ami. Chapitre 30. Sommaire. De la véracité. Elle est le milieu entre la fanfaronnade et la dissimulation. Caractère de l'homme véridique. Paragraphe 1. La véracité est le milieu entre la dissimulation et la fanfaronnade. Elle ne concerne que les paroles, sans que d'ailleurs elle concerne indistinctement les paroles de tout genre. Le fanfaron est celui qui feint et se vante d'avoir plus qu'il n'a, ou de savoir ce qu'il ne sait pas. Le dissimulé est le contraire. Il feint d'avoir moins qu'il n'a. Il nie savoir ce qu'il sait et il cache qu'il le sait. Paragraphe 2. L'homme vrai ne fait ni l'un ni l'autre. Il ne feindra pas d'avoir soit plus, soit moins que ce qu'il a. Mais il dira franchement ce qu'il a comme il dira ce qu'il sait. Que ce soit là ou que ce ne soit pas de réelle vertu, c'est une autre question. Mais il est évident qu'il y a des milieux dans les caractères qu'on vient de tracer, puisque quand on garde ces milieux dans sa conduite, on mérite des éloges. Chapitre 31. Sommaire. De la justice. Il y a plusieurs espèces de justes. Le juste suivant la loi et le juste suivant la nature. Le juste qui ne se rapporte qu'à l'individu, le juste qui se rapporte aux autres. Le juste relatif aux autres est un milieu, puisqu'il consiste dans l'égalité. L'égalité, pour être raisonnable, doit être proportionnelle. Platon. C'est l'égalité proportionnelle qui maintient les sociétés en ménageant les intérêts. Digression sur l'intervention et le rôle nécessaire de la monnaie dans les transactions sociales. Limite du talion. Erreur des pythagoriciens. La juste politique est celle qu'on doit surtout étudier ici. Il n'y a pas de rapport de justice des enfants au père, de l'esclave au maître. Association conjugale. La femme est presque l'égale du mari. Le juste suivant la loi et le juste selon la nature ne doivent jamais être confondus. Le juste par nature ne change pas comme le juste légal. Caractère essentiel de l'injustice, participation nécessaire d'une volonté éclairée. Ignorance innocente, ignorance coupable. Peut-on faire une injustice contre soi-même? Argument pour et contre. On ne peut être coupable envers soi. L'intempérant. Explication de cette contradiction apparente. Il y a plusieurs parties dans l'âme, meilleures ou pires, et l'une peut être injuste à l'égard de l'autre. Paragraphe 1. Il nous resterait maintenant à parler de la justice et à expliquer ce qu'elle est, dans quels individus elle se montre et à quels objets elle s'applique. D'abord, si nous étudions la nature même du juste, nous reconnaîtrons qu'il y a deux sortes de justes. Le premier est le juste selon la loi, et c'est en ce sens qu'on appelle juste les choses que la loi ordonne. La loi ordonne, par exemple, des actes de courage, des actes de sagesse, et en général, toutes les actions qu'on dénomme d'après les vertus qui les inspirent. Voilà ce qui fait que l'on dit encore de la justice qu'elle est une sorte de vertu complète. En effet, si les actes que la loi commande sont des actes justes, et que la loi n'ordonne jamais que les actes qui sont conformes à toutes les différentes vertus, il s'ensuit que l'homme qui observe scrupuleusement la loi et qui accomplit les choses justes qu'elle consacre est complètement vertueux. Par conséquent, je le répète, l'homme juste et la justice nous représentent une sorte de vertu parfaite. Voilà donc une première espèce de justice qui consiste dans les actes et qui s'applique aux choses que nous venons de dire. Paragraphe 2. Mais ce n'est pas là tout à fait le juste ni la justice telle que nous les cherchons. Dans tous les actes de justice compris, comme la loi les comprend, l'individu qui les accomplit peut être juste exclusivement pour lui-même et vis-à-vis de soi, puisque le sage, le courageux, le tempérant n'a ses vertus que pour lui seul et qu'elles ne sortent pas de lui. Mais le juste qui se rapporte à autrui est fort différent du juste tel qu'il en résulte de la loi, car il n'est pas possible dans le juste qui est relatif aux autres d'être juste pour soi tout seul. Voilà précisément le juste et la justice que nous voulons connaître et qui s'appliquent aux actes que nous venons d'indiquer. Paragraphe 3. Le juste qui est relatif aux autres, c'est, pour le dire en un seul mot, l'équité, l'égalité. L'injuste, c'est l'inégal. Lorsqu'on s'attribue à soi-même une part de bien plus grande, ou une part moins grande de mal, il y a iniquité, inégalité. Et les gens pensent alors que vous avez commis et qu'ils ont souffert une injustice. Paragraphe 4. La conséquence est évidente. Si l'injustice consiste dans l'inégalité, c'est que la justice et le juste consisteront dans l'égalité parfaite des contrats. Une autre conséquence, c'est que la justice est un milieu entre l'excès et le défaut, entre le trop et le trop peu. Celui qui commet l'injustice a, grâce à cette injustice, plus qu'il ne doit avoir. Celui qui la souffre, précisément parce qu'il la souffre, a moins qu'il ne faut. Le milieu de ces extrêmes, c'est le juste. Or, le milieu, la moitié, est égal, de telle sorte que l'égal entre le plus et le moins est le juste, et que l'homme juste est celui qui, dans ses rapports avec autrui, ne veut avoir que l'égalité. Paragraphe 5. L'égalité suppose tout au moins deux termes. Ainsi donc, l'égalité, en tant qu'elle est relative aux autres, c'est le juste. Et l'homme vraiment juste est celui que je viens de dire et qui ne veut qu'elle. Paragraphe 6. La justice consistant dans le juste, dans l'égal et dans un certain milieu, le juste ne peut être du juste qu'entre certains êtres. L'égal ne peut être égal que pour certaines choses. Le milieu n'est le milieu qu'entre certaines choses. Aussi, il en faut conclure que la justice et le juste sont relatifs et à certains êtres et à certaines choses. Paragraphe 7. De plus, le juste étant l'égal, l'égal proportionnel ou l'égalité proportionnelle sera encore le juste. Or, une proportion exige au moins quatre termes, et pour l'établir, il faut dire, par exemple, A est à B comme C est à D. Autre exemple de proportionnalité. Celui qui possède beaucoup doit apporter beaucoup à la masse commune. Et celui qui possède peu doit apporter peu. Réciproquement, il est également proportionnel que celui qui a beaucoup travaillé reçoive beaucoup en salaire et que celui qui a peu travaillé reçoive peu de choses. Ce que le grand travail est au petit, beaucoup l'est à peu. Et celui qui a beaucoup travaillé est en rapport avec beaucoup, tout comme celui qui a peu travaillé est en rapport avec peu. Paragraphe 8. C'est aussi cette proportionnalité de la justice que Platon paraît avoir voulu appliquer dans sa République. Le laboureur, dit-il, produit le blé. L'architecte construit la maison. Le tisserand file le vêtement. Le cordonnier fait la chaussure. Le laboureur donne le blé à l'architecte, qui à son tour lui donne la maison. Même rapport entre tous les autres citoyens qui échangent ce qu'ils possèdent contre ce que possèdent les autres de leur côté. Paragraphe 9. Mais voici comment s'établit entre eux la proportion. Ce que le laboureur est à l'architecte, l'architecte l'est réciproquement au laboureur. Paragraphe 10. Même rapport pour le tisserand, pour le cordonnier ou pour tous les autres, entre qui la proportion reste toujours également la même. Paragraphe 11. C'est précisément cette proportionnalité qui constitue et maintient le lien social. Et l'on a pu dire en ce sens que la justice est la proportion, car c'est le juste qui conserve les sociétés. Et le juste se confond identiquement avec le proportionnel. Paragraphe 12. Mais l'architecte mettait un plus haut prix à son ouvrage que le cordonnier. Et il était difficile que le cordonnier fît un échange de son œuvre contre celle de l'architecte, puisqu'il ne pouvait, à la place de ses souliers, avoir une maison. On a donc imaginé un moyen de rendre toutes ces choses vénales, et l'on a décrété au nom de la loi que l'intermédiaire de toutes les ventes et achats possibles serait une certaine quantité d'argent qu'on a appelée monnaie, en grec numisma, du caractère légal qu'elle porte, et qu'en s'en donnant dans chaque circonstance les uns aux autres une quantité relative au prix de chaque objet, on pourrait faire toute espèce d'échange et maintenir par là le lien de l'association politique. Paragraphe 13. Le juste consistant dans ces rapports et dans ceux dont j'ai parlé un peu plus haut. La justice qui concerne ces rapports est la vertu qui pousse l'homme à faire spontanément toutes les choses de cet ordre avec une intention parfaitement réfléchie et à se conduire, comme on vient de le voir, dans tous ces cas. Paragraphe 14. On peut dire encore que la justice est le talion, mais ce ne peut pas être au sens où l'entendaient les pythagoriciens. Selon eux, il serait juste de souffrir à son tour tout ce qu'on aurait fait soi-même à autrui. Or, ceci n'est pas possible entre tous les hommes sans exception. Le juste n'est pas le même du serviteur à l'homme libre que de l'homme libre au serviteur. Le serviteur qui frappe un homme libre ne doit pas recevoir en bonne justice autant de coups qu'il en a donné. il doit en recevoir bien davantage. C'est que le talion n'est juste ainsi qu'avec la proportionnalité. Autant l'homme libre est au-dessus de l'esclave, autant le talion doit différer de l'acte qui le provoque. J'ajoute qu'il doit y avoir dans certains cas même différence de l'homme libre à l'homme libre. Il n'est pas juste, si quelqu'un a crevé l'œil d'un autre, qu'on se contente de lui en crever un. Il faut que son châtiment soit plus grand, conformément à la règle de proportion. Car c'est lui qui a frappé le premier et qui a commis un délit. À ces deux titres, il est coupable. Et par conséquent, la proportionnalité exige que comme les délits sont plus forts, le coupable souffre plus du mal qu'il n'en a fait. Paragraphe 15. Mais, comme le juste peut s'entendre en plusieurs sens, il faut déterminer de quelle espèce de juste on s'occupe ici. Il y a, dit-on, certainement des rapports de justice du serviteur au maître et de l'enfant au père. Et le juste, dans ces relations-là, paraît, à ceux qui le reconnaissent, synonyme du juste civil et politique. Car le juste que nous étudions ici est le juste politique. Paragraphe 16. Or, nous avons vu que la justice civile consiste surtout dans l'égalité. Les citoyens sont, on peut dire, des associés qu'on doit regarder au fond comme semblables par leur nature et qui ne sont différents que dans la façon d'être. Mais on pourrait trouver qu'il n'y a pas de rapport de justice possible du fils au père et de l'esclave au maître, pas plus qu'il n'y en a relativement à moi-même, de mon pied ni de ma main, ni d'aucune autre partie de mon corps. C'est là aussi ce que le fils paraît être à l'égard de son père. Le fils n'est qu'une partie du père en quelque sorte, et c'est seulement quand il a pris lui-même toute la valeur et le rang d'un homme et qu'il s'est isolé à ce titre, qu'il devient l'égal du père et son semblable, rapport que les citoyens tâchent toujours d'établir entre eux. Paragraphe 17. Par la même raison, et dans des relations à peu près pareilles, il n'y a pas non plus de justice, de droit, de l'esclave au maître, car le serviteur est une partie de son maître. Et s'il y a un droit et une justice pour lui, c'est la justice de la famille, celle qu'on pourrait appeler la justice économique. Mais nous ne cherchons pas cette justice-là. Nous étudions uniquement la justice politique et civile. Et la justice politique semble consister exclusivement dans l'égalité et la complète similitude. Paragraphe 18. Le juste dans l'association du mari et de la femme se rapproche beaucoup de la justice politique. La femme, sans doute, est inférieure à l'homme, mais elle lui est plus intime que l'enfant ou l'esclave, et elle est plus près qu'eux d'être l'égale de son mari. Aussi, leur vie commune se rapproche-t-elle de l'association politique, et par suite, la justice de la femme à l'époux est en quelque sorte plus politique qu'aucune de celles que nous venons d'indiquer. Paragraphe 19. Le juste, au point de vue où nous sommes placés, se trouvons donc dans l'association politique. Il s'ensuit que les idées et de la justice et de l'homme juste se rapporteront spécialement à la justice politique. Or, parmi les choses qu'on appelle justes, les unes le sont par la nature, les autres ne le sont que par la loi. Mais il ne faut pas supposer que ces deux ordres de choses sont absolument immuables. Les choses mêmes de la nature sont sujettes aussi au changement. Paragraphe 20. Je m'explique par un exemple. si nous nous appliquions tous à nous servir de la main gauche, nous deviendrions sans doute ambidextres. Et cependant, la nature ferait toujours qu'il y aurait une main gauche. Nous ne pourrions donc pas empêcher que la main droite ne valût mieux qu'elle, quand bien même nous ferions tout de la gauche aussi habilement que de la droite. Mais de ce que les deux mains peuvent devenir également à droite et changer, ce serait une erreur de croire qu'il n'y a pas de nature pour l'une et pour l'autre. Et comme la gauche demeure la gauche le plus ordinairement et le plus longtemps, et que la droite demeure également la droite, on dit que c'est là une chose de nature. Paragraphe 21. Cette remarque s'applique exactement aux choses justes par nature, à la justice naturelle. Et ce n'est pas parce que ce juste peut changer quelquefois pour notre usage qu'il cesse d'être juste par nature. Loin de là, il reste juste, car ce qui demeure juste dans la plus grande partie des cas est de toute évidence le juste naturel. La justice que nous établissons et sanctionnons par nos lois, c'est certainement encore la justice. Mais nous l'appelons la justice selon la loi, la justice légale. Le juste selon la nature est sans contredit supérieur au juste suivant la loi que font les hommes. Mais le juste que nous cherchons en ce moment, c'est le juste politique et civil. Et la justice politique est celle qui est faite par la loi et non pas celle de la nature. Paragraphe 22. L'injuste et l'acte injuste pourraient sembler se confondre, et cependant il faut les distinguer. L'injuste est déterminé précisément par la loi, et par exemple, il est injuste de frustrer quelqu'un du dépôt qu'il vous a confié. L'acte injuste s'étend plus loin, et c'est de faire en réalité une chose quelconque injustement. Même différence entre l'acte juste et le juste. Le juste est aussi ce qui est fixé positivement par la loi. Et l'acte juste, c'est de faire réellement des choses justes. Paragraphe 23. Quand donc un acte est-il juste? Et quand ne l'est-il pas? Pour le dire en peu de mots, un acte est juste quand on agit avec une intention réfléchie et une entière liberté. J'ai dit plus haut ce qu'il nous faut entendre par un acte libre et volontaire. Quand on se rend bien compte pour qui, en quel temps et pourquoi l'on agit, ainsi que l'on fait, alors on fait vraiment un acte juste. Et réciproquement, l'homme injuste sera également celui qui sait à qui, quand et pourquoi il fait ce qu'il fait. Lorsque, sans le savoir et sans aucune de ces conditions, on fait quelque chose d'injuste, on n'est pas vraiment injuste, on est simplement malheureux. Par exemple, si croyant tuer un ennemi, on a tué son père, on a bien fait un acte injuste. Mais l'on n'a point commis de crime envers personne. Seulement, c'est un malheur. Paragraphe 24. Ainsi donc, on ne commet pas réellement d'injustice tout en faisant un acte injuste quand on agit avec pleine ignorance et que, comme nous le disions à l'instant, on ne sait pas ni qui l'on frappe, ni comment, ni pourquoi. Paragraphe 25. Mais il est bon d'expliquer un peu précisément ce que c'est que cette ignorance et comment il se peut qu'en ignorant complètement la personne à qui l'on nuit, on ne soit pas coupable. Voici dans quelles limites nous circonscrivons cette ignorance. Quand l'ignorance est la cause directe de l'action qu'on a faite, on n'a plus fait cette action volontairement et par conséquent, on n'est pas coupable. Mais quand au contraire, on est cause soi-même de cette ignorance et qu'on fait quelque chose par suite de cette ignorance dont on est la seule cause, alors on est coupable. Et c'est avec raison qu'on est appelé la cause du délit et qu'on en est responsable. C'est le cas de l'ivresse. Les gens qui, étant ivres, font quelque chose de mal, sont coupables, car ils sont cause eux-mêmes de leur ignorance. Ils étaient libres de ne pas boire jusqu'à ce point de méconnaître leur père et de le frapper. Paragraphe 26. De même pour tous les autres cas d'ignorance que l'on cause soi-même. Ceux qui font mal par suite de ces aveuglements volontaires sont injustes et coupables. Mais pour ces ignorances dont on n'est pas la cause et qui font seul qu'on agit comme on agit, on n'est pas coupable. C'est là, en quelque sorte, une ignorance toute physique, comme celle des enfants qui, ne connaissant pas encore leur père, viennent à le frapper. Cette ignorance toute naturelle, dans les cas de cette sorte, ne fait pas que, pour cette action aveugle, on dise des enfants qu'ils sont coupables de ce qu'ils font. L'ignorance étant la cause unique de leur acte, et eux-mêmes n'étant pour rien dans le fait de leur ignorance, on ne peut les accuser ni les croire coupables. Paragraphe 27. Une question s'élève, non plus sur l'injustice qu'on fait, mais sur celle qu'on souffre. Et l'on demande, peut-on volontairement souffrir une injustice? Ou bien est-ce impossible? Nous faisons bien librement et volontairement des choses justes ou même des choses injustes. Mais nous ne sommes jamais volontairement les victimes de l'injustice. Nous fuyons avec grand soin tout ce qui peut nous nuire et il n'est pas moins évident que nous ne souffririons pas de notre plein gré le tort qu'on nous fait si nous pouvions l'empêcher. Personne ne supporte volontiers qu'on lui fasse tort. Et souffrir une injustice, c'est essuyer un tort et un dommage. Paragraphe 28. Oui, tout cela est vrai. Mais il y a des cas où, quoi qu'on pût exiger l'égalité, on concède une partie de ses droits aux autres. Et alors, s'il était juste qu'on eût une part égale, avoir une moindre part est une injustice. Et comme on subit la réduction volontairement, il en résulte que l'on souffre volontairement une injustice. Voilà sans doute ce qu'on peut dire. Mais une preuve que le tort n'est pas réellement consenti, c'est que ceux qui, dans ces cas, se contentent d'une moindre part que la leur, réclament en place de ce qu'ils cèdent, ou de l'honneur, ou de la louange, ou de la gloire, ou de l'affection, ou telle autre compensation de ce genre. Or, celui qui échange quelque chose contre l'objet qu'il accorde, celui-là n'éprouve aucun tort. Et s'il ne souffre pas d'injustice, il ne la souffre donc pas volontairement. Paragraphe 29. Ajoutez que ceux qui prennent ainsi moins que leur part et qui semblent traités injustement, s'ils ne reçoivent pas une portion égale à celle des autres, ne manquent pas de se glorifier de ces concessions et d'en faire parade en disant « J'aurais bien pu avoir une part égale, mais je ne l'ai pas prise et je l'ai abandonnée à un tel qui est plus âgé ou à un tel qui est mon ami. » Or, personne ne se vante d'une injustice qu'il a soufferte. Mais si l'on ne fait jamais parade des injustices qu'on subit, et si l'on fait parade de celles-ci, il est clair que dans ce prétendu partage inégal, on n'a point été lésé en gardant la part la plus petite. Et si l'on n'a point du tout souffert d'injustice, il s'ensuit à plus forte raison, je le répète, que l'on n'a point souffert une injustice volontairement. Paragraphe 30. Je conviens qu'un argument contre toutes ces théories, c'est l'exemple qu'on peut tirer de l'intempérance. L'homme intempérant, dira-t-on, qui ne sait pas se maîtriser, se nuit à lui-même en faisant un acte vicieux. Et il le fait de sa pleine volonté. Donc, il se nuit à lui-même tout en le sachant fort bien. Et ainsi, il souffre volontairement une injustice et un tort qu'il se fait à lui-même de son plein gré. Mais la légère addition que nous ferons à notre définition réfutera ce raisonnement. Et voici notre addition. C'est que personne ne veut réellement souffrir d'injustice. Sans aucun doute, c'est en le voulant que l'intempérant accomplit ses actes d'intempérance, de telle sorte qu'il se fait injustice et tort à lui-même, et qu'ainsi il veut se faire du mal. Mais personne, venons-nous de dire, ne veut souffrir d'injustice. Donc, non plus l'intempérant lui-même ne peut pas souffrir une injustice volontairement de sa propre part. Paragraphe 31. Mais peut-être ici pourrait-on encore élever une autre question et demander. Il se peut donc qu'on soit coupable contre soi-même? Du moins, il semble, en regardant à l'exemple de l'intempérant, que cela est possible. Et évidemment, si ce qu'ordonne la loi est juste, celui qui ne le fait pas est injuste. Et si la loi, prescrivant de faire quelque chose pour quelqu'un, on ne le fait point, on est injuste envers cette personne. Or, la loi ordonne d'être tempérant et sage, de conserver son bien, de soigner son corps, et elle a telles autres prescriptions de ce genre. Celui donc qui ne fait pas tout cela est injuste envers lui-même, puisqu'aucun de ses délits ne peut jamais s'étendre et passer jusqu'à un autre. Paragraphe 32. Mais tous ces raisonnements ne sont pas vrais le moins du monde. Et en fait, on ne peut pas être injuste envers soi-même. Il est de toute impossibilité qu'un même individu, dans le même moment, est tout à la fois plus et moins, et qu'il agisse tout ensemble et de son plein gré et malgré lui. L'injuste en tant qu'injuste a plus qu'il ne lui revient. La victime qui souffre une injustice en a tant qu'elle la souffre, à moins qu'elle ne devrait avoir. Si donc on se fait injustice à soi-même, il s'ensuit qu'un même individu, dans le même moment, pourrait avoir plus et moins. Mais c'est là ce qui est évidemment impossible, et par conséquent, on ne peut se faire injustice à soi-même. Paragraphe 33. En second lieu, comme celui qui fait une injustice la commet avec volonté et intention, et que celui qui la souffre contre son gré, si l'on pouvait être injuste envers soi-même, il en résulterait qu'on pourrait tout à la fois faire quelque chose de son plein gré et contre son gré. C'est une autre impossibilité aussi palpable. Et il ne se peut pas plus de cette façon que de l'autre qu'on soit injuste envers soi-même. Paragraphe 34. Même résultat si l'on descend à l'observation des délits particuliers. On se rend toujours coupable d'un délit, soit en refusant un dépôt, soit en commettant un adultère, un vol ou quelque autre injustice particulière. Mais on ne peut se refuser à soi-même un défaut qu'on se serait confié. On ne peut commettre un adultère avec sa propre femme. On ne peut pas se voler son propre argent. Et par conséquent, si ce sont là tous les délits possibles et qu'on ne puisse en commettre un seul contre soi-même, il en résulte qu'il est impossible aussi d'être coupable et de commettre un délit contre soi. Paragraphe 35. Si l'on soutient encore que ce soit possible, il faut du moins convenir que l'injustice n'a plus rien de social et de politique, et qu'elle est toute domestique ou économique. Et voici comment. L'âme, divisée comme elle l'est en plusieurs parties, en a une qui est meilleure, une autre qui est pire. Et s'il y a quelque injustice possible dans l'âme, c'est uniquement de ses parties les unes à l'égard des autres. L'injustice domestique ou économique ne peut se distinguer que relativement au pire et au meilleur pour qu'il soit possible qu'il y ait justice et injustice de l'individu envers soi. Mais ce n'est pas de cette justice-là que nous nous occupons, et c'est uniquement de la justice politique, c'est-à-dire de celle qui s'exerce entre des citoyens égaux. Paragraphe 36. En résumé, dans l'ordre des délits que nous étudions, l'individu ne saurait être coupable envers lui-même. Mais on peut encore demander, qui est donc le coupable dans l'âme? Dans quelle partie réside le délit? Est-ce dans la partie de l'âme qui a une disposition injuste, ou qui juge avec injustice, ou qui répartit les parts injustement, comme il arrive dans les luttes et dans les concours? Si l'on reçoit le prix de la main du président qui en décide, on ne fait pas une injustice, bien que le prix soit donné injustement. Le seul coupable de l'injustice commise, c'est celui qui a mal jugé et mal attribué le prix. Et même encore, le président est coupable en un sens, et en un autre, il ne l'est pas. Il l'est en tant qu'il n'a pas bien jugé le juste, conformément à la vérité et à la nature. Mais en tant qu'il a prononcé selon ses propres lumières, il n'est pas injuste ni coupable. Chapitre 32. Sommaire. De la raison. Il faut dire précisément ce qu'elle est pour rendre utile et pratique toutes les théories et les conseils sur la vertu. Analyse des diverses parties de l'âme. Analyse des diverses facultés qui nous découvrent la vérité. Science, prudence, entendement, sagesse et conjecture. Caractère différent de ses facultés. Comparaison de la prudence et de la sagesse. La prudence et la sagesse sont toutes deux des vertus. De l'habileté. Elle est une partie de la prudence. De l'adresse. Objet spécial de l'adresse. La nature a sa part dans la vertu. Elle nous pousse instinctivement à des actes estimables et en général au bien. La raison a sa part aussi dans la vertu. Socrate a eu tort de confondre la vertu et la raison. Il faut, pour que la vertu soit complète, réunir la nature à la raison. Relation de la prudence aux autres vertus et aux diverses parties de l'âme. Elle est comme l'intendant de la sagesse. Paragraphe 1. Jusqu'ici, en parlant des vertus, nous avons expliqué ce qu'elles sont, dans quels actes elles consistent et à quoi elles s'appliquent. De plus, nous avons dit, en nous arrêtant à chacune d'elles en particulier, que les pratiquer, c'est se conduire le mieux possible en suivant la droite raison. Mais se borner à cette généralité et dire qu'il faut obéir à la droite raison, c'est absolument comme si quelqu'un disait que la vraie manière de conserver la santé, c'est de n'user jamais que de choses bien saines. Certainement, ce conseil serait fort obscur. Et si je parlais ainsi, l'on me dirait « Indiquez précisément les choses saines que vous recommandez. » Paragraphe 2. De même aussi, pour la raison, on peut demander également « Qu'est-ce que la raison ? Et quelle est la droite raison ?» Pour répondre à cette question, le premier soin peut être qu'il faut prendre, c'est de bien spécifier la partie de l'âme dans laquelle se trouve la raison que l'on cherche. Paragraphe 3. Antérieurement, et dans une simple esquisse sur l'âme, on a vu qu'il y a en elle une partie qui est douée de la raison et une autre qui est irrationnelle. À son tour, la partie de l'âme qui est douée de la raison se divise en deux autres parts qui sont la volonté et l'entendement qui est capable de science. Que ces parties de l'âme soient différentes l'une de l'autre, c'est ce qui est évident par la différence même de leurs objets. Paragraphe 4. De même que ce sont des choses très différentes entre elles que la couleur, la saveur, le son et l'odeur, de même aussi, la nature n'a pas manqué de leur attribuer des sens spéciaux et divers. Nous percevons le son par l'ouïe, la saveur par le goût, la couleur par la vue. On doit supposer que la même loi s'applique à tout le reste. Et puisque les sujets sont différents, il faut aussi que les parties de l'âme qui nous les font connaître soient différentes comme eux. Paragraphe 5. Autre, en effet, est l'intelligible, autre est le sensible. Et comme c'est l'âme qui nous les fait connaître l'un et l'autre, il faut que la partie de l'âme qui se rapporte au sensible soit tout autre que celle qui se rapporte aux intelligibles. La volonté et la libre réflexion s'appliquent aux choses de sensation et de mouvement, en un mot, à tout ce qui peut naître et périr. Notre volonté délibère sur les choses qu'il dépend de nous de faire ou de ne pas faire, après une décision préalable, et où la volonté et la préférence réfléchie peuvent s'exercer pour agir ou ne pas agir, selon notre choix. Mais ce sont toujours des choses sensibles et qui sont en mouvement pour changer d'une façon quelconque. Par conséquent, la partie de l'âme qui choisit et se détermine se rapporte en suivant la raison aux choses sensibles. Paragraphe 7. Ces points, une fois fixés, nous devons, puisque la raison s'applique à la vérité, rechercher quelles sont les conditions du vrai dans l'âme. Or, le vrai peut être atteint par la science, la prudence, l'entendement, la sagesse et la conjecture. Il faut donc nous demander, pour faire suite à ce qui précède, à quel objet se rapporte chacune de ces facultés. Paragraphe 8. D'abord, la science s'applique à ce qui peut être su, et ce domaine s'étend aussi loin que la démonstration et le raisonnement. Quant à la prudence, elle ne s'applique qu'aux choses faisables et pratiques, qu'il y a possibilité de rechercher ou de fuir, et qu'il dépend de nous de faire ou de ne pas faire. Paragraphe 9. Mais dans les choses que l'homme peut produire et où il peut agir, il faut distinguer avec soin d'une part ce qui produit et de l'autre ce qui agit simplement. Pour ce qui produit, il y a toujours quelque autre résultat final outre le fait même de la production. Ainsi, dans l'architecture qui est destinée à produire la maison, le but spécial qu'elle se propose est la maison, indépendamment de la construction même qui produit cette maison. De même encore pour la menuiserie et pour tous les arts en général qui tendent à produire quelque chose. Paragraphe 10. Quant aux choses purement pratiques, il n'y a pas d'autre fin que l'action même. Par exemple, quand on joue de la lyre, on n'a point une autre fin que l'acte même auquel on se livre. C'est l'acte et le fait seul de jouer qui sont ici la fin qu'on se propose. Ainsi donc, la prudence s'applique à l'action et aux choses de pure action, sans résultat ultérieur. Et l'art s'applique à la production et aux choses qu'on produit. Car l'usage de l'art consiste bien plus dans les choses qu'on produit que dans celles où l'on agit simplement. Paragraphe 11. Ainsi, la prudence est, on peut dire, la faculté qui choisit volontairement et qui agit dans les choses où il dépend de nous d'agir ou de ne pas agir, et qui, toutes en général, n'ont que l'utile pour objet. Paragraphe 12. La prudence est une vertu, à ce qu'il me semble, ce n'est pas une science, car les gens prudents sont dignes de louange, et la louange ne s'adresse qu'à la vertu. De plus, il peut y avoir vertu dans toute science, mais il n'y a pas de vertu à proprement parler dans la prudence, parce que la prudence, à mon avis, est elle-même la vertu. Paragraphe 13. Quant à l'intelligence, elle s'applique au principe des choses intelligibles et des êtres. La science ne se rapporte qu'aux choses qui admettent la démonstration, mais les principes sont indémontrables, de telle sorte que la science ne s'applique pas aux principes et que c'est l'intelligence seule ou l'entendement qui s'y applique. Paragraphe 14. La sagesse est un composé de la science et de l'entendement, car la sagesse est en rapport tout à la fois et avec les principes et avec les démonstrations qui sortent des principes et sont l'objet propre de la science. En tant que la sagesse touche au principe, elle participe de l'entendement. Et, en tant qu'elle touche aux choses qui sont des démonstrations, comme conséquence du principe, elle participe de la science. Donc évidemment, la sagesse, je le répète, est composée de science et d'entendement. Et elle s'applique aux choses où s'appliquent aussi l'entendement et la science. Paragraphe 15. Enfin, la conjecture est la faculté par laquelle nous cherchons, dans tous les cas où les choses présentent une double face, à démêler si elles sont ou ne sont pas de telle ou telle façon. Paragraphe 16. La prudence et la sagesse, telles qu'on vient de les définir, sont-elles ou ne sont-elles pas une seule et même chose ? La sagesse s'adresse aux choses qu'atteint la démonstration et qui sont toujours immuablement ce qu'elles sont. Mais la prudence, loin de concerner les choses de cet ordre, concerne celles qui sont sujettes au changement. Je m'explique. Par exemple, la ligne droite, la ligne courbe, la ligne concave et toutes les choses de ce genre sont toujours les mêmes. Mais les choses d'intérêt ne sont pas telles qu'elles ne puissent perpétuellement se changer les unes dans les autres. Elles changent donc, et l'intérêt d'aujourd'hui n'est plus l'intérêt de demain. Ce qui est utile à celui-ci ne l'est pas à celui-là. Ce qui est utile de telle façon ne l'est pas de telle autre. Mais c'est la prudence qui s'applique aux choses d'utilité, aux intérêts. Ce n'est pas la sagesse. Donc, la prudence et la sagesse sont fort différentes. Paragraphe 17. Mais la sagesse est-elle ou n'est-elle pas une vertu ? On peut voir bien clairement qu'elle est une vertu rien qu'en se rendant compte de la nature de la prudence. La prudence est, comme nous l'avons dit, une vertu de l'une des deux parties de l'âme qui possède la raison. Mais il est évident qu'elle est au-dessous de la sagesse, car elle s'applique à des objets inférieurs. La sagesse ne s'applique qu'à l'éternel et au divin, comme nous venons de le voir, tandis que la prudence ne s'occupe qu'à des intérêts tout humains. Si donc le terme le moins élevé est encore une vertu, à plus forte raison, le terme le plus haut en sera-t-il une? Et ceci prouve certainement que la sagesse est une vertu. Paragraphe 18. D'autre part, qu'est-ce que l'habileté et à quoi s'applique-t-elle? L'habileté s'exerce aussi dans les choses où s'applique la prudence, c'est-à-dire dans les choses que l'homme peut et doit faire. On donne le nom d'habile à celui qui est capable de délibérer sensément, de bien juger et de bien voir, mais dont le jugement s'applique à de petites choses et n'aime que les petites choses. Ainsi, l'habileté et l'homme habile ne sont qu'une partie de la prudence et de l'homme prudent, et ne sauraient être sans eux. Car il serait impossible de séparer l'idée de l'homme habile de l'idée de l'homme prudent. Paragraphe 19. La même observation pourrait s'appliquer encore à l'adresse. L'adresse n'est pas de la prudence. L'homme adroit n'est pas l'homme prudent. Néanmoins, l'homme prudent est adroit. Et voilà pourquoi l'adresse coopère dans une certaine mesure aux actes de la prudence. Paragraphe 20. Mais on dit aussi d'un homme méchant qu'il est adroit. Et c'est ainsi, par exemple, que Mentor paraissait adroit, sans d'ailleurs être prudent. Le propre de la prudence et de l'homme prudent, c'est de ne désirer jamais que les choses les plus nobles, de toujours les préférer et de toujours les faire. Au contraire, le but unique de l'adresse et de l'homme adroit, c'est de découvrir les moyens d'accomplir les choses qui sont à faire et de savoir se les procurer. Tels sont donc les objets dont paraît s'occuper l'homme adroit et auxquels il donne tous ses soins. Paragraphe 21. Du reste, on pourrait ici nous demander, non sans quelque étonnement, pourquoi, voulant traiter de la morale et de la politique dans cet ouvrage, nous en sommes venus à parler aussi de la sagesse. Notre premier motif, c'est que si la sagesse est une vertu, comme nous le disions, l'étude qu'on en fait ne doit pas sembler étrangère à notre sujet. En second lieu, il appartient au philosophe d'étudier sans exception tous les objets qui sont compris dans un même cercle. Paragraphe 22. Et puisque nous parlons des choses de l'âme, il faut nécessairement parler de toutes. Or, la sagesse est dans l'âme. Et en parler, ce n'est pas sortir de l'étude de l'âme. Paragraphe 23. Le rapport que nous avons signalé entre l'adresse et la prudence se répète, à ce qu'il semble, pour toutes les autres vertus. Je veux dire qu'il y a dans chacun de nous des vertus innées qui mêlent la nature et qui sont comme des forces instinctives qui, sans l'intervention de la raison, poussent chaque homme à des actes de courage, de justice et autres actes relatifs au reste des vertus particulières. Paragraphe 24. Je me hâte d'ajouter que ces vertus se forment aussi sous l'influence de l'habitude et de la volonté. Mais les seules vertus acquises et que la raison accompagne sont complètement des vertus et sont aussi les seules dignes d'estime. Ainsi donc, la vertu purement naturelle agit sans la raison. Et précisément, parce qu'elle est isolée de la raison, elle est faible. Elle n'est pas du tout digne de louange. Mais, s'adjoignant à la raison et au libre arbitre, elle forme la vertu accomplie et parfaite. Aussi, l'instinct naturel qui nous pousse à la vertu aide-t-il la raison et ne peut-il exister sans elle ? paragraphe 25. D'un autre côté, la raison et le libre arbitre n'arrivent pas non plus tout seuls à former complètement la vertu sans le penchant instinctif que donne la nature. Et c'est là ce qui montre que Socrate n'était pas dans le vrai en prétendant que la vertu n'est que la raison. Car il soutenait qu'il ne servait de rien de faire des actes de courage et de justice si on ne le sait pas, et si l'on ne se détermine point par la raison dans le choix qu'on fait. Socrate avait donc tort de dire que la vertu est le fruit de la raison toute seule. Les philosophes de nos jours comprennent mieux les choses quand ils disent que la vertu, c'est de faire de bonnes actions suivant la droite raison. Et cependant, leur théorie même n'est pas encore tout à fait juste. Paragraphe 26. En effet, si quelqu'un accomplissait des actes de parfaite justice, sans la moindre intention, sans la moindre connaissance des belles choses qu'il fait en se laissant emporter par une espèce d'élan irrationnel, ces actes pourraient encore fort bien être excellents et tout à fait conformes à la droite raison. Je veux dire qu'il aurait agi précisément selon ce qu'ordonne la droite raison. Mais pourtant, une action de ce genre n'aurait rien qui méritât la louange et l'estime. Aussi, la définition que nous proposons nous semble-t-elle préférable. Et selon nous, la vertu est l'instinct naturel vers le bien, guidé par la raison. Parce qu'alors, c'est tout ensemble, et la vertu est une chose digne d'estime et de louange. Paragraphe 27. Quant à la question de savoir si la prudence est ou n'est pas réellement une vertu, voici un argument qui peut faire voir très clairement que c'en est une. Si la justice, le courage et les autres vertus sont estimables, parce qu'elles font de belles actions, il est évident aussi que la prudence est également digne d'estime et qu'elle doit être placée aussi à ce rang élevé de vertu. Car la prudence s'applique aux actions que le courage nous inspire instinctivement. En général, le courage n'accomplit son œuvre tout entière que selon ce qu'elle ordonne. Et par conséquent, si le courage est louable lui-même parce qu'il fait ce que la prudence lui commande, la prudence, à plus juste titre, doit-elle être absolument louable et être absolument une vertu. Paragraphe 28. Maintenant, la prudence est-elle ou n'est-elle pas une vertu agissante et pratique? C'est ce qu'on pourra très clairement savoir en observant les diverses sciences. Prenons par exemple l'architecture. Dans cet art, il y a d'un côté celui que nous appelons l'architecte, qui dirige tout le travail, et celui qui obéit à l'architecte en le servant, et qu'on appelle le maçon. C'est ce dernier qui fait la maison. Mais l'architecte, en tant que le maçon ne construit la maison que sur son plan, fait aussi bien la maison. De même encore pour toutes les autres sciences qui produisent quelque chose et dans lesquelles on peut distinguer et le chef qui conduit et l'ouvrier qui exécute. Ainsi, le chef produit lui aussi une certaine chose et il produit cette même œuvre que fait l'ouvrier qui obéit à ses ordres. Paragraphe 29. S'il en est absolument de même pour les vertus, ce qui paraît fort probable et fort rationnel, il s'ensuit que la prudence est aussi une vertu qui agit, une vertu pratique, car toutes les vertus sont actives et pratiques. Et la prudence, au milieu d'elles, joue en quelque sorte le rôle du chef et de l'architecte. Ce qu'elle prescrit, les vertus, et les cœurs que les vertus inspirent, l'exécutent fidèlement. Et puisque les vertus sont agissantes et pratiques, la prudence l'est tout comme elle. Paragraphe 30. Enfin, une autre question serait de savoir si la prudence commande ou si elle ne commande pas, comme on l'a soutenu, non sans motif, à toutes les autres parties de l'âme. Il ne me semble point qu'elles doivent commander aux parties qui lui sont supérieures. Et par exemple, elles ne commandent pas à la sagesse. Paragraphe 31. Mais, dit-on, elles surveillent et gouvernent souverainement toutes les autres parties de l'âme, en leur prescrivant ce qu'elles doivent faire. Mais si elle est leur maîtresse, peut-être est-elle dans l'âme comme l'intendant dans la famille. Il est maître de tout, il dispose de tout. Mais au fond, ce n'est pas lui qui commande à tout. Il ne fait que préparer du loisir à son maître, qui, s'il était détourné par tous ses soins nécessaires, se verrait fermer entièrement l'accès de toutes les belles et nobles choses qui lui conviennent. Paragraphe 32. De même, la prudence, pareille à ce serviteur utile, est comme l'intendant de la sagesse. Elle lui prépare aussi le loisir qu'il lui faut pour accomplir son œuvre supérieure en contenant les passions et en les modérant. Fin du livre premier.